France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Faut-il être particulièrement sujet au narcissisme pour écrire sur soi-même ? La question peut paraître un peu simpliste exprimée ainsi, mais c'est cette question que Michel Léris choisit d'aborder de front et franchement dans l'émission que vous allez entendre dans un instant. Michel Léris, faut-il le rappeler, inclassable auteur de L'Afrique fantôme, écrivain prolifique, proche du mouvement surréaliste. Michel Léris a pratiqué le registre autobiographique tout au long de sa vie, en assumant de partir de descriptions de choses vécues pour livrer ses clés de compréhension du réel, en s'attardant évidemment sur quelques obsessions, pressentiment de la mort, figure de la femme fatale, émotion devant la découverte du pouvoir des mots. Il y a toujours du narcissisme dans l'écriture de soi, nous dit Michel Léris, mais si je me confesse, explique-t-il, c'est que j'espère trouver ainsi un écho chez les autres, et même, avec un peu de chance, une réponse fraternelle de la part des autres. Mais laissons donc la parole à Michel Léris au micro de Jean Paget dans cette émission « Recherche de la France » de 1962.
RTF France 3 Nationale présente « Recherche de la France ». Anthologie vivante. Anthologie vivante, aujourd'hui Michel Léris. Page publiée, choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget. Avec le concours de Lolé Bellon, Roger Blin, Roger Coggio, Robert Liensol et Alain Cuny. Réalisation Georges Gravier. Œuvre de Michel Léris. Simulacre, 1925. Le point cardinal, 1927. L'Afrique fantôme, 1934. Tauromachie, 1937. Miroir de la tauromachie, 1938. L'âge d'homme, 1939. Deuxième édition, 1946. Glossaire, J.C.R. Méglose, 1940. Au mal, 1943. Nuit sans nuit, 1945. Réédition récente. Aurora, 1946. La règle du jeu, Bifur, 1948. Fourbi, 1955. Fibrille, Avenir.
Michel Léris, vous avez écrit un journal de voyage, un roman, Aurora, des ouvrages ethnographiques et pour le reste, des essais de caractère autobiographique. Votre choix s'est porté sur des fragments précisément de caractère autobiographique. Pouvez-vous nous donner les raisons de ce choix ?
D'une part, je crois que ce sont les écrits autobiographiques qui constituent l'essentiel de mon œuvre. D'autre part, un livre comme L'Afrique fantôme, le journal de voyage en question, ne se prêtait pas du tout au découpage, parce que ce livre n'est pas, au sens strict, un récit de voyage. Il est un journal intime que j'ai tenu en voyage. Dans ce journal, je parle aussi bien de ce que je voyais, de ce qui se passait, des incidents de voyage, que de ce qui se déroulait en moi-même. Je crois que ce qui donne sa signification au livre, c'est l'ensemble, c'est que tous ces aspects intérieur et extérieur, subjectif et objectif, se trouvent confrontés. Donner des extraits, ça aurait été le trahir. Mes ouvrages ethnographiques, il me paraît évident qu'ils sont réservés aux spécialistes, que ces questions intéressent tout particulièrement, ils ne se prêtent absolument pas à la lecture publique.
Dans l'âge d'homme, vous avez choisi deux extraits principalement, l'un qui concerne la vieillesse et la mort, et l'autre l'opéra. Je crois qu'à des titres différents, vous avez dans votre œuvre des passages importants qui concernent la musique d'abord et également le thème de la mort, une certaine hantise de la mort, une certaine obsession de la mort. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ?
Ce sont des thèmes qui, en effet, tous deux reviennent très souvent dans mon œuvre. Je puis dire qu'il y a l'un de ces thèmes qui répond, comme vous le disiez, à ma hantise. C'est le sentiment que j'ai depuis très longtemps du vieillissement. Je n'ai pas eu besoin d'atteindre l'âge mûr pour avoir ce sentiment. Et la crainte de la mort, qui, je l'avoue, est chez moi très forte. À l'inverse, si j'ai choisi un passage touchant à l'opéra, c'est parce que parmi les choses, les plaisirs, les joies que la vie peut nous offrir, joies telles qu'elles peuvent, à tout le moins pour un moment, nous faire oublier qu'il y a la vieillesse et la mort, bien pour moi, l'opéra vient en très bon rang parmi ces choses-là.
L'âge d'homme, Roger Blin.
Il m'est impossible de découvrir à partir de quel moment j'ai eu connaissance de la mort, et par quelle voie elle a fini par prendre dans mon esprit une réalité, cessant de signifier simplement « aller au ciel ». Ma mère m'emmenait parfois au cimetière du Père-Lachaise, sur la tombe de ses parents, où étaient exposés sous un globe de verre les insignes maçonniques de mon grand-père, haut fonctionnaire de la Troisième République, qui avait été disciple d'Auguste Comte et vénérable de la loge La Rose du Parfait Silence. Trouvant toujours le globe cassé et les insignes mis en désordre par les mains de gens mal intentionnés, ma mère avait fini par renoncer à cette exposition de reliques et se contentait d'orner la tombe avec des fleurs, des immortelles et de légères couronnes de perles. Ses visites au cimetière si éloigné du quartier bourgeois, provincial presque, où nous habitions, me donnait bien un avant-goût de quelque chose, mais qui n'était pas encore vraiment la mort. J'avais en tête quelques idées peu rassurantes qui touchaient à la mort, plus exactement au cadavre. L'une, notamment, qui me venait d'une gravure vue dans un illustré où il était question, si je ne m'égare pas, d'un homme frappé par le tonnerre, dans l'œil de qui était photographiée l'image de l'arbre sous lequel il avait été foudroyé. J'avais aussi, où j'eus un peu plus tard, certaines représentations concernant le suicide. Un supplément illustré de quotidien m'étant tombé sous les yeux, où j'avais vu figurer le suicide d'un Raja, avec ses femmes au milieu d'un incendie. Fait divers qui avait dû se passer dans quelque île ou presque île de la Malaisie. Le Raja était un homme assez jeune, svelte et jaune, doté d'une moustache noire et d'un turban à aigrette. Ses femmes ayant été tuées de sa main ou mises à mort sur son ordre, il était représenté en train de se poignarder à son tour. Il s'enfonçait dans la poitrine, un long cri sa lame ondulée, et sa stature, déjà quelque peu vacillante, se détachait sur le fond d'incendie. Je ne comprenais pas en quoi exactement consistait le suicide, et surtout dans quelle mesure la volonté intervenait dans cet acte. Je me demandais par exemple si les femmes que le Raja avait tuées ou fait tuer étaient ou non des suicidées, jusqu'à quel point elles avaient été consentantes, jusqu'à quel point on les avait forcées. La seule chose claire que je percevais, c'est le mot « suicide » lui-même, dont j'associais la sonorité avec l'idée d'incendie et la forme serpentine du Christ. Et cette association s'est tellement ancrée dans mon esprit, qu'aujourd'hui encore, je ne puis écrire le mot « suicide » sans revoir le Raja dans son décor de flammes. Il y a l'S, dont la forme autant que le sifflement me rappelle non seulement la torsion du corps près de tomber, mais la sinusoïdalité de la lame. Ui, qui vibre curieusement et s'insinue, si l'on peut dire, comme le fusement du feu ou les angles à peine mousses d'un éclair congelé. Sid, qui intervient enfin, pour tout conclure, avec son goût acide, impliquant quelque chose d'incisif et d'aigu. Je constate donc que si vague que fût ma notion de la mort, elle n'était guère plus pour moi que cette pure allégorie, un squelette armé d'une faux. J'avais du moins quelque idée de ce qu'est la mort violente, être foudroyé ou suicidé. Ceux qui mouraient au lit, c'étaient les gens de ma famille, les personnes qui, par définition, allaient au ciel et à qui le bonheur éternel était promis. Les autres étaient des personnages exceptionnels qui, pour un peu, auraient fait figure de monstres, voire de maudits. La mort, ce n'était pour moi ni l'accident qui anéantit soudainement, ni la disparition tragique au cours d'un incendie. Ce n'était, à coup sûr, pas la perte de l'existence, mais le passage au repos du cimetière, à la double vie du paradis et de la tombe que les mains pieuses venaient fleurir. Si tout, par conséquent, reste confus quant à la manière dont j'ai peu à peu pris conscience de ce qu'est au vrai la mort, je retrouve une image matérielle très précise qui contribua pour beaucoup à me donner la notion de la succession des stades de l'existence, de l'écoulement du temps, du passage à l'état adulte, puis à la décrépitude, en un mot, du vieillissement. Il s'agit d'une suite de compositions que je vis tout petit, ornant le dos du cartonnage d'un album édité à Épinal, et qui était intitulé « Les couleurs de la vie ». Je ne suis pas certain de me rappeler exactement quelles étaient ces couleurs, ni surtout à quelle phase déterminée de la vie on les faisait correspondre. Mais les voici, telles qu'elles me reviennent en mémoire. La case correspondant à la couleur « Méli-Mélo », la première en haut et à gauche, était couverte d'un ton indécis, olivâtre ou violacé. D'une part, on voyait des nouveaux-nés dans les choux, d'autre part, un bébé à bourrelet, en train de s'essuyer les yeux avec les poings et de brailler, soutenu sous les bras par une armature circulaire à roulettes, jouant le rôle des actuels parcs, et dites à cette époque chariot. Je m'inquiétais beaucoup de savoir si j'avais, oui ou non, dépassé l'âge du méli-mélo. J'interrogeais souvent mes frères à ce sujet. Pour me faire enrager, ils me disaient bien entendu que non, et j'étais à chaque fois affreusement mortifié. Je n'aspirais pas aux stades les plus élevés. À proprement parler, ils se fondaient avec la nuit des temps, et je n'avais aucune idée que l'un d'entre eux, si ce n'est peut-être l'âge du mariage, pût figurer une apogée. Simplement, j'étais anxieux de passer de la phase méli-mélo à celle qui était représentée dans la case suivante, celle qui portait la couleur rose, ou de l'adolescence, et où l'on distinguait, à côté d'un petit garçon accoudé à l'appui d'une fenêtre et faisant des bulles de savon, un groupe de fillettes et de garçons jouant et courant gaiement. Là se bornait mon ambition, et toutes les autres cases, excepté peut-être la dernière, restaient pour moi des schèmes entièrement abstraits. Il y avait donc, entre autres, la couleur bleue, avec des amoureux au clair de lune, la couleur verte, où figurait une scène touchante à la maternité, puis les couleurs de la maturité, les seules avec les deux premières couleurs de l'enfance que je me rappelle avec une suffisante précision. La couleur de marron cuit, correspondant à deux ivrognes mâles d'une quarantaine d'années, vêtus comme des chiffonniers ou des vagabonds, et échangeant des horions dont la violence était exprimée par force étoile de diverses grosseurs. La couleur rouge, avec un homme barbu coiffé d'une calotte, enfoncé dans un vaste fauteuil, les pieds chaussés de confortables pantoufles et allongés dans la direction du feu, évoquant, tout en fumant une bonne pipe, ses souvenirs de gloire et de vaillance, scènes militaires qu'on voyait représentées avec des trajectoires de boulets et des éclatements de grenades, dans la fumée montant du coq bien rouge auprès duquel il était en train de se chauffer. La couleur jaune, je ne sais si c'était bien cela, mais pour moi l'image voulait dire la jaunisse. On y voyait un homme sans âge, presque sans sexe, glabre, tortueux, cacochime, portant marmotte et robe de chambre et se réconfortant d'une tasse de tisane. la couleur grise, consacrée à une scène de famille du genre le plus classiquement optimiste. Parents et grands-parents se passant de bras en bras un minuscule poupon. La couleur noire, enfin, dont l'élément essentiel était un personnage très lugubre et d'une maigreur décharnée, assis dans une espèce de cave où il broyait du noir, me semble-t-il, à l'aide d'un appareil à manivelle semblable à ceux dont on se sert pour torréfier le café. Coiffé d'un haut de forme et vêtu d'un costume noir qui lui donnait l'allure d'une sorte de croque-mort, les yeux pleurards, le nez morveux, il tenait à la main une chandelle prête à s'éteindre et toute coulante. Chacune de ces images devait avoir un titre correspondant à sa couleur, dans le genre du méli-mélo ou des marrons cuits. Elles devaient être aussi bien plus nombreuses, et vraisemblablement, la plupart des occupations courantes, inhérentes aux divers âges de la vie, y étaient représentées. Toutefois, je ne me souviens d'aucune en dehors de celle que je viens de citer, ce qui montre, à vrai dire, qu'elle ne m'avait peut-être pas autant frappé que je veux le croire aujourd'hui. En définitive, la seule qui reste vraiment chargée de sens pour moi est celle du méli-mélo, parce qu'elle exprime à merveille ce chaos qu'est le premier stade de la vie, cet état irremplaçable où, comme au temps mythique, toutes choses sont encore mal différenciées, où la rupture entre microcosme et macrocosme n'étant pas encore entièrement consommée, on baigne dans une sorte d'univers fluide, de même qu'au sein de l'absolu. J'ai passé maintenant par un certain nombre de ces couleurs, y compris, bien avant 40 ans, celle des marrons cuits. La couleur jaune, ou de maladie de foie, me guette, et j'espérais, il y a à peine plus d'un an, échapper, grâce au suicide, à la couleur noire. Mais ainsi, les choses se font et se défont. Je demeure encastré dans ces âges de la vie, et j'ai de moins en moins l'espoir d'échapper à leur cadre, au moins de par ma volonté. Enchâssé que je suis dans leur boiserie rectangulaire, telle une mauvaise daguerréotypie couverte çà et là de taches de moisissures irisées sur les bords, et pareilles aux teintes d'arc-en-ciel que la décomposition peint au visage des noyés. Une grande partie de mon enfance s'est déroulée sous le signe de spectacles, opéras ou drames lyriques que m'emmenaient voir mes parents, aussi passionnés de théâtre l'un que l'autre, et particulièrement quand s'y mêlait la musique. Fréquemment, ils disposaient d'une avant-scène à l'opéra, que leur prêtait la principale cliente de mon père, femme riche dont il était chargé de gérer la fortune. De cette avant-scène, la seconde à partir du plateau sur le côté droit de la salle, j'ai assisté dès ma 10e année en me penchant beaucoup, car même assis au premier rang de la loge, il était difficile de voir plus de la moitié gauche de la scène, à maintes productions du répertoire. Roméo et Juliette, Faust, Rigoletto, Aïda, Lohengrin, les maîtres chanteurs de Nuremberg, Parsifal, Hamlet, Salomé. Et c'est peut-être à l'impression que me firent ces spectacles qu'est due cette habitude que j'ai toujours de procéder par allusion, par métaphore, ou de me comporter comme si j'étais sur un théâtre. Je plaçais l'opéra au-dessus de tous les autres théâtres, même de l'opéra comique, où j'avais pourtant vu deux spectacles qui m'avaient vivement frappé, le vaisseau fantôme et les contes d'Hoffmann. Je reviendrai à propos du vaisseau fantôme sur l'impression que m'avait faite le Hollandais volant, personnage romantique entre tous, sorte de juif errant des mers, que poursuit sans trêve un châtiment. Tout ce que je dirai pour le moment de ce drame, c'est que nous trouvant seuls à la maison, mes frères et moi, nous nous amusâmes un jour à le jouer, dans l'antichambre de l'appartement, baptisé pour la circonstance Théâtre Paris Lyrique, avec des décors et des costumes improvisés. Étant le plus jeune, j'étais chargé du seul rôle féminin, celui de Senta, la fille du pêcheur. Mon frère aîné faisait le Hollandais, et l'un de ses amis, le vieux Dalant, père de Senta. Mon rôle me plaisait, de même que tous les rôles de souffre-douleur qui m'étaient invariablement dévolus dans mes jeux avec mes frères. À ce côté souffre-douleur, qui est un des traits profonds de mon caractère, se rattache le souvenir suivant qui est encore un souvenir de théâtre. Les affiches horrifiantes de bagnes d'enfants, pièces réalistes sur les maisons de correction qui fut jouée à l'ambigu quelques années avant la guerre. Sur l'affiche étaient peints des adolescents au visage décharné et livide, chaussés de sabots, coiffés de bérets bleus, et leurs brutes géantes de surveillants avec un gros ventre, de fortes moustaches et les yeux furibonds. Ce souvenir est sans doute le premier où figure la haine et le dégoût profond que j'ai pour la police. Physiquement, brute grossière, sentant la sueur, le derrière brumeux et le prépuce mal lavé, bien plus sale que les ouvriers qui, eux, du moins, ne traînent pas ces relents de chambrée. Parallèlement à la crainte instinctive que m'inspire la pègre, crainte très ambiguë, mêlée d'une certaine attirance, tel le double sentiment que j'éprouvais en regardant les jeunes prisonniers de l'affiche. Répugnance insurmontable, d'une part, pour leur visage de pâle voyou, pitié et sympathie, d'autre part, en raison de leur malheur, et du fait que je m'imaginais immédiatement être un des leurs, ainsi que le héros de la pièce, garçon de bonne famille que son père met, à propos d'une vétille, dans ce bagne d'enfant, et qui finit par se pendre. En ce qui concerne les contes d'Hoffmann, j'étais séduit par le fait qu'il y avait dans la fabulation quelque chose à comprendre, à saisir, un peu comme dans Parsifal. Trois héroïnes, l'automate Olympia, la courtisane Giulietta, la chanteuse Antonia, sont présentées en trois histoires indépendantes qui constituent chacune un acte. À la fin, on découvre que ces trois créatures, nées de l'imagination d'Hoffmann, qui sous l'empire de l'ivresse a rêvé ces trois contes, ne sont que trois images d'une même femme, la coquette Stella, dont Hoffmann est vainement amoureux. Peu avant la chute du rideau, un tonneau s'illumine et l'on y voit apparaître la muse, qui, par de douces paroles, console Hoffmann endormi le front sur la table. Cette triple incarnation, sous des aspects divers, d'une femme, dans ces trois cas aussi bien que dans la réalité, insaisissable, dut être l'un des premiers moules dans lesquels s'élabora ma notion de la femme fatale. Automate qui se brise, courtisane qui trahit, chanteuse qui meurt phtisique, tels sont les avatars par lesquels passe la dédaigneuse dans la rêverie d'Hoffmann, forme changeante comme la méduse, en qui chacun croit reconnaître celle qu'il aime. De telles pensées me reviennent aujourd'hui avec l'image de la méduse, grandiose figure qui illumine de sa tête anonyme, dominant un cou coupé, le premier Faust de Goethe, ce Faust que j'ai connu d'abord tel que les librettistes de Gounod le portèrent à la scène, et au troisième acte duquel celui qui a signé un pacte avec le diable voit se dresser devant ses yeux, autour du cou, un ruban rouge étroit comme un tranchant de hache, le spectre de Marguerite, spectre que chaque fois que j'assistais à Faust, je fus navré de ne pas même apercevoir, quels que fussent mes efforts, et si éperdument que je me penchasse par-dessus le rebord plucheux de la loge, car il ne se manifestait que très fuligineux et sur le côté droit de la scène. Mais d'autres images symboliques de la femme m'ont de bonne heure sollicité, aussi diverses que les avatars de la Stella des contes d'Hoffmann, fascinantes comme la méduse et fuligineuses comme elle. Parmi les plus anciennes, il y a Sainte-Geneviève, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, à l'époque où je confondais encore l'histoire de France avec le devoir et ne concevais pas qu'il pût exister de figure féminine plus attachante que celle de ses héroïnes.
Vous avez dit dans Bifure, je crois, que la poésie, vous la considériez comme un écart, comme une prise de distance. Vous avez choisi dans Au mal, qui est un recueil de poèmes, trois poèmes. Est-ce que ces poèmes correspondent à cette idée que vous faites de la poésie considérée comme un écart, comme une prise de distance? Ou bien faut-il y voir autre chose?
Je ne crois pas que ces trois poèmes-là, en particulier, représentent un écart plus grand que d'autres. L'expression poétique, quelle qu'elle soit, est toujours un écart. Si j'ai choisi ces trois poèmes, c'est pour deux raisons. Il y a une raison d'abord qui est tout à fait empirique. C'est que ce sont des poèmes courts, qui peuvent être lus facilement, qui sont plus aisément saisissables quand on les écoute, des poèmes plus longs. Donc, raison purement empirique. Une autre raison, peut-être plus sérieuse, est celle-ci. C'est que, quand je revois mon recueil Oman, et d'ailleurs comme l'ensemble de mes poèmes, j'ai une nette préférence pour les poèmes courts. Il y a, dans mon œuvre poétique, certains poèmes longs, assez lyriques, auxquels, quand je les ai faits, je croyais absolument, bien sûr, mais qui, relus, me semblent quelque peu oratoires et me donnent l'impression d'avoir une moindre authenticité que les poèmes plus courts.
Au mal, l'olébellon.
Légende. Aujourd'hui, les portes s'agitent. Les serrures ne dorment pas tranquilles dans leur obscurité, plus calme qu'une mer d'huile. Grande tenture, harnaché Dieu de femme, vous croulez comme un nuage, rideau qui se déchire et démasque le soleil qui n'est qu'un bûcher de prunelles. Une inquisition sourde épouvantait la pièce, tenaille des boiseries délavées, pilori de la table, noyade du plafond. Les ciseaux ouvraient toutes grandes leurs mâchoires en bâillement de veuves inconsolées. Mais leurs branches lancées au hasard ne coupaient que le vide, un vide hagard que la hauteur elle-même avait abandonné. Alors, trois bûches se calcinèrent dans la cheminée, le lit s'ouvrit, et j'aperçus sortant à mi-corps de sa grève une femme belle et dénudée qui jetait à la mer ses vêtements défaits. Grande figure fière, tu ne fus pas longue à t'engloutir dans les sables mouvants. Tes boucles elles-mêmes ne furent pas épargnées. Tout entière tu disparus, et la grève refermée ne garda même pas l'odeur exquise de ton corps, vapeur d'ivresse souterraine, qui aurait pu encore atteindre les narines de l'univers, serrer ses tempes aériennes, et même le dépraver. Seuls les vêtements cinglèrent vers d'autres sommeils. Ô buste aux flammes douces et mortes enlisées, le monde manque d'une pâture ardente pour nourrir ses troupeaux enchantés. Présage. Autour de mon œil, la terre. Autour de la terre, ton air. Le ciel que tu respires tandis que nous l'empoisonnons. Ô monde, j'écoutais ton glissement de rayons à travers la silencieuse huche où dort le pain doré des miracles solaires dans la prison du jour dont le fleuve est la cruche. Ô mon air, les bruits du cœur s'arrêteront-ils parce que parle celle qui connaît ma mesure, comme la plage connaît ses grains de sable, comme la ville connaît ses rues et ses maisons, comme la mer mesure aux croupes de ses golfes l'arc-en-ciel des méduses et le ressac des morts violentes. Ô saison, le vide du cœur s'emplira-t-il parce que la pluie tiède d'un visage est apparue entre les feuilles? Deux bouches en s'unissant pansèrent leur déchirure. Saison d'orage, saison d'ombre. Frères et sœurs, frères et sœurs, comme l'aiguille et le fil, comme la larme et l'œil, comme l'aile et le vent. Frères et sœurs, comme la flèche et l'arc, comme la foudre et le nuage, comme les veines et le sang. Un vent dur soufflera, qui tarira la langue habile des sources, fendira les poteries d'argile noire dans la cave des gosiers. Retournerons-nous jamais à nos moiteurs sacrés, néfastes seulement pour ce qui craint la rouille, nous qui sommes du fond de la mer. D'orge et de basilic pour une harpie. Tout ce qui pointe de cruautés et de féeries dans l'air, au-dessus du plan de clivage, tout ce qui roule tête bêche en bas, de travaux et de nourritures utiles, sous l'arcade vibrante du cœur, coléreuse lame de sabre. Vertige et chance, heures ou malheurs, chargé des exhalaisons de la rue, du plus léger au plus lourd, se crête et se profile en fauve tumultueux d'armoiries, quand vient, alliage de foudre fine et de rosée, dans ses lenteurs de samouraï, la longue, la lisse, la bonne, et belle à vous trouer les yeux.
Michel Léris, dans Bifure, vous avez choisi un texte qui est un souvenir d'enfance. Ce souvenir est intitulé « Heureusement ». Il s'agit du problème du langage que vous considérez comme une action sur soi, comme une détection, comme une exaltation. Est-ce pour ces raisons que vous avez choisi ce texte ?
J'ai choisi ce texte, qui est le texte liminaire de Bifure, parce que je le considère un peu comme le texte clé, non seulement de ce livre, mais de Fourbi et des autres qui doivent prendre la suite. Ce texte illustre en effet l'importance capitale qu'a toujours eu pour moi le langage, mais il illustre aussi la découverte que j'ai faite, je dirais de façon implicite, de façon encore très confuse, car j'étais tout petit à l'époque, la découverte que j'ai faite de ce que le langage n'était pas une chose qui m'appartient à moi tout seul, mais quelque chose qui est le bien de tous, par lequel se fait ma communication avec les autres. C'est cela, comme le montre le texte, que signifie le passage de heureusement que je disais quand j'étais tout petit, avant d'avoir appris par les autres que c'est heureusement qu'on doit dire et par heureusement qu'on se fait comprendre d'autrui.
Bifure, Roger Codjo. Thank you.
Sur le sol impitoyable de la pièce, salon, salle à manger, le soldat était tombé. Un soldat, de plomb ou de carton-pâte, figurine assez délicatement moulée et coloriée, où l'un de ces bons hommes, mal dégrossi, peinturluré de bleu, de rouge, de blanc, de noir, et dont le corps apparaît quand il casse, fait d'une matière louche et indigente, blanchâtre ou de couleur terreuse, un soldat neuf ou ancien. Précédemment placé avec ses compagnons, ou d'autres de modèles différents, armés hétéroclites, sur une table bien stable, ou sur un léger guéridon peut-être orné de chinoiseries, ou de figurations animales telles que cigogne au long bec, si ce guéridon n'est autre qu'un des éléments d'une de ces tables gigognes qui, comme leur nom l'indique, ne peuvent être décorées que de cigognes. Un soldat vraisemblablement français et qui était tombé, échappé de mes mains malhabiles, encore inaptes à tracer sur un cahier, même de vulgaires bâtons. L'essentiel n'était pas qu'un soldat fût tombé. Un soldat, cela n'éveillait aucune résonance définie en moi. L'essentiel, c'était qu'il y eût quelque chose m'appartenant qui fût tombé, et que cette chose m'appartenant fût un jouet. Que cette chose tombée fût un objet ressortissant à ce monde clos des jouets qu'on enferme dans des boîtes quand on a fini de s'amuser, à ce monde prestigieux et séparé dont les composants par leur forme, leur couleur, tranchent sur le monde réel en même temps qu'il le représente dans ce qu'il a peut-être de plus aigu. Monde à part, surajouté au quotidien, comme les initiales gravées se surajoutent aux timbales et les breloques aux chaînes de montre. Monde intense, analogue à tout ce qui, dans la nature, fait figure de choses d'apparat. Papillons, coquelicots dans les blés, coquilles, étoiles du ciel, et jusqu'aux mousses et aux lichens, dont rocs et troncs ont l'air d'avoir été parés. L'un de mes jouets, et peu importait ce qu'il fût, il suffisait qu'il fût un jouet, l'un de mes jouets était tombé. En grand danger d'être cassé, car la chute avait été directe et l'altitude prise au-dessus du niveau du sol, d'une table, voire même d'un simple guéridon, est fort loin d'être négligeable quand il s'agit de la chute d'un jouet. L'un de mes jouets, du fait de ma maladresse, cause initiale de la chute, se trouvait sous le coup d'avoir été cassé. L'un de mes jouets, c'est-à-dire un des éléments du monde auquel, en ce temps-là, j'étais le plus étroitement attaché. Rapidement, je me baissai, ramassai le soldat gisant, le palpai et le regardai. Il n'était pas cassé, et vive fut ma joie, ce que j'exprimais en m'écriant « Heureusement !» Dans cette pièce mal définie, salon ou salle à manger, pièce d'apparat ou pièce commune, dans ce lieu qui n'était alors rien autre que celui de mon amusement, quelqu'un de plus âgé, mère, sœur ou frère aîné, se trouvait avec moi. Quelqu'un de plus averti, de moins ignorant que je n'étais, et qui me fit observer, entendant mon exclamation, que c'est « heureusement » qu'il faut dire, et non ainsi que j'avais fait « heureusement ». L'observation coupa court à ma joie, ou plutôt, me laissant un bref instant interloqué, eut au fait de remplacer la joie dont ma pensée avait été d'abord tout entière occupée par un sentiment curieux dont c'est à peine si je parviens aujourd'hui à percer l'étrangeté. L'on ne dit pas « heureusement », mais « heureusement ». Ce mot, employé par moi jusqu'alors sans nulle conscience de son sens réel, comme une interjection pure, se rattache à heureux. Et, par la vertu magique d'un pareil rapprochement, il se trouve inséré soudain dans toute une séquence de significations précises. Appréhender d'un coup, dans son intégrité, ce mot qu'auparavant j'avais toujours écorché, prend une allure de découverte, comme le déchirement brusque d'un voile ou l'éclatement de quelque vérité. Voici que ce vague vocable, qui, jusqu'à présent, par un hasard, promu au rôle de chaînon de tout un cycle sémantique, il n'est plus maintenant une chose à moi, il participe de cette réalité qu'est le langage de mes frères, de ma sœur et celui de mes parents. De chose propre à moi, il devient chose commune et ouverte. Le voilà, en un éclair, devenu chose partagée ou, si l'on veut, socialisée. Il n'est plus maintenant l'exclamation confuse qui s'échappe de mes lèvres, encore toute proche de mes viscères comme le rire ou le cri. Il est entre des milliers d'autres l'un des éléments constituants du langage, de ce vaste instrument de communication dont une observation fortuite, émanée d'un enfant plus âgé ou d'une personne adulte, à propos de mon exclamation consécutive à la chute du soldat sur le plancher de la salle à manger ou le tapis du salon, m'a permis d'entrevoir l'existence extérieure à moi-même et remplie d'étrangeté. Sur le sol de la salle à manger ou du salon, le soldat, de plomb ou de carton-pâte, vient de tomber. Je me suis écrié, heureusement, l'on m'a repris, et un instant, je demeure interdit, en proie à une sorte de vertige, car ce mot mal prononcé, et dont je viens de découvrir qu'il n'est pas en réalité ce que j'avais cru jusque-là, m'a mis en état d'obscurément sentir, grâce à l'espèce de déviation, de décalage, qui s'est trouvé de ce fait imprimé à ma pensée, en quoi le langage articulé, tissu arachnéen de mes rapports avec les autres, me dépasse, poussant de tous côtés ses antennes mystérieuses.
Michel Léris, dans Fourbi, vous avez choisi un texte qui concerne la fraternité. C'est, je crois, le thème dominant de Fourbi. Pouvez-vous préciser ce thème qui a motivé votre choix ?
Je l'ai choisi pour cette raison simple, c'est que, comme beaucoup d'auteurs d'autobiographies, de confessions, je suis fortement suspect de narcissisme. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait en moi aucun narcissisme, aucune espèce de complaisance à me considérer. Je dois confesser que c'est vrai. Mais je dois dire aussi que si je me confesse, si j'essaye de formuler ce qui personnellement me tient le plus à cœur, c'est parce que j'espère trouver ainsi un écho chez les autres. Et même, avec un peu de chance, une réponse fraternelle de la part des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, à propos de l'épisode « Heureusement », j'ai pleinement conscience du fait que le langage, en même temps qu'il est un moyen de voir plus clair en moi, de m'expliquer à moi-même, est aussi un moyen de communiquer avec les autres. Et même essentiellement cela, et finalement cela, puisque c'est de là que vient son origine, moyen de communication entre les hommes. Et ce que, à mon sens, aucun écrivain ne doit jamais oublier.
Fourbi, Robert Liensol.
Le mot fraternité, qui suit en rouge l'égalité toute blanche, elle-même précédée protocolairement par l'azur de la liberté, est donc peut-être pour moi le plus vivant de ces trois mots, celui que, sans prétendre en faire le maître mot, je chargerai le plus volontiers de ces références précises, biographiques, auxquelles j'attache un si grand prix. Accord tacite entre quelques-uns qui n'ont pas besoin d'être de même souche, ni du même sexe, ni de la même génération, pour former une espèce de société secrète, solidarité ouverte avec la masse que représentent, quelle que soit leur occupation, leur pays ou la couleur de leur peau, les gens de bonne volonté, fraternité aussi de l'un à l'autre de ces pôles, dont la distance n'est pas seulement affaire de quantité, et je me sens pour le moment incapable d'opter, soit dans le sens de l'attachement à un nombre infime de personnes avec qui tout se passe implicitement ou à mi-mot, soit dans le sens d'une communion plus vaste, mais de ce fait plus diffuse, et qui ne vaut qu'exprimer à haute voix et constamment traduite en actes. Il est des fraternités nobles, mais il en est aussi d'ignobles. S'il est exclu, par exemple, d'admettre pour valable l'espèce de communion qui peut régner entre flics passant quelqu'un à tabac, il faut en conclure que l'important est ce en quoi, par quoi l'on communie, et non pas le fait pur de la communion. Fraternité, certes, est l'un des mots les plus émouvants, mais avant qu'on s'émeuve, il y a avantage à savoir de quelle fraternité il retourne. Fraternité de lâches unis dans l'élimination d'un plus faible. Fraternité dans le courage, mais pour une cause en son fond idiote ou détestable. Fraternité de criminels liés comme les doigts de la main. Fraternité fondée sur un goût ou sur un vice qu'on partage. Fraternité bon enfant, régnant au sein d'un groupe de joyeux drilles ou d'une équipe sportive. Fraternité de cénacle, qu'une vanité commune à tous ses membres tend à poser en société de parfaits. Fraternité universelle, jusqu'à ce jour demeurée un slogan. Fraternité frivole, à fleur de peau et n'engageant à rien, éprouvée au hasard de quelques rencontres, à l'époque où ma santé, mes dispositions de caractère et mes occupations me laissaient une latitude plus grande pour la vie nocturne. Plus le temps passe, il est juste que je le dise, et plus je tends à ne regarder que d'un œil amusé ces rapprochements superficiels et fortuits qui me comblaient autrefois, mais dont je vois trop nettement aujourd'hui qu'ils ne sous-entendent aucun pacte et valent dans l'unique mesure où ils expriment de la manière la plus naïve qu'il est intolérable de rester tout seul et que nouer, même fugacement, une relation avec des inconnus, pour peu qu'on les présume le moins du monde en sympathie, est indispensable. Au moins de temps à autre, à qui veut ne pas succomber à l'étouffement. Avec ses tourments quotidiens et sa terreur policière, tel qu'alors chacun put se demander ce que serait sa conduite au cas où, par la torture, on l'inciterait à livrer quelqu'un de sa connaissance, l'occupation a contribué à me rendre plus exigeant en matière de fraternité et m'a montré le prix de certains actes qui relèvent du savoir-vivre élémentaire, sans rien, au départ tout au moins, d'héroïque ni de brillant. Partager ce qu'on a avec celui qui est privé, rejeter un avantage fondé sur la persécution qui frappe des innocents, savoir tenir sa langue et la délier quand il faut, abriter les traqués et toutes sortes d'autres actions liées à des impératifs aussi simples que le « tu ne cafarderas point » des morales enfantines. Mais je reste néanmoins persuadé qu'aucune fraternisation réelle ne peut se concevoir, qui serait strictement grave et judicieuse. Ce qui, dans son essence, un mouvement du cœur doit, par définition, bousculer tant soit peu les limites imposées par la morale et la raison.
Michel Léris, dans Nuit sans nuit, où vous faites le récit de rêves que vous avez eu pendant plusieurs années, vous considérez le rêve comme poésie, mais en même temps, vous pensez qu'il apporte un éclairage de seconde vie. Pouvez-vous préciser cette pensée ?
Je puis dire que pour moi, poésie et éclairage de seconde vie, c'est à peu près la même chose. Mais si vous voulez que je vous explique pourquoi le rêve me paraît tel, c'est pour la raison suivante. C'est que le rêve, qui est une chose qui, par définition, vous vient dans le sommeil, ou en tout cas, puisqu'il y a dans ce recueil non seulement des rêves, mais aussi des rêveries de demi-sommeil. C'est quelque chose qui vous vient alors que vous n'êtes pas tout à fait éveillé. Il prend une allure d'apparition, comme quelque chose qui viendrait d'un autre monde, même si, en fait, le matériel qui est mis en jeu dans le rêve est emprunté au monde le plus quotidien et terre à terre. C'est la façon dont il survient qui donne cette impression de seconde vie. Et c'est également, une fois éveillé, la recherche qu'on est obligé de faire pour l'exhumer, pour le découvrir, pour le retrouver, pour le formuler, qui lui donne cette distance, qu'il met à cet écart, qui est pour moi caractéristique de la poésie.
Nuit sans nuit, Alain Cuny.
août 1924, une rue de banlieue, la nuit, entre des terrains vagues. À droite, un pylône métallique dont les traverses portent sur chacun de leurs points d'intersection une grosse lampe électrique allumée. À gauche, une constellation reproduite, renversée, base au ciel et pointe vers la terre, la forme exacte du pylône. Le ciel est couvert de floraisons, bleu foncé sur fond plus clair, identiques à celles du givre sur une vitre. Les lampes s'éteignent tour à tour, et chaque fois que la lumière de l'une d'entre elles s'évanouit, l'étoile correspondante disparaît aussi. Il fait bientôt tout à fait nuit. Sans date, je suis couché dans mon lit, exactement comme je dois l'être dans la réalité. Mais le front appuyé à la paroi blanche et poussiéreuse d'un large cylindre de chaux, espèce de citerne dont la hauteur ne dépasse guère ma propre taille, et qui n'est autre que moi-même réalisé et extériorisé. Je sens contre mon front le contact de cet autre front extérieur, et je m'imagine ainsi que ma tête est appuyée à la substance même de mon esprit. 27-28 mars 1934. Celle qui me préoccupe et moi, nous sommes en bateau et sur le point de débarquer, peut-être pour une simple escale, en compagnie de Zette et de plusieurs personnes qui voyagent avec nous. En quête d'une poupée que mon amie vient d'égarer, tout comme il y a quelques jours elle avait égaré son sac dans un bal bien réel auquel nous assistions, je parcours escaliers et salons remplis d'une foule de passagers. Rencontre d'une fillette, à peine pubère, et qui doit avoir pour racine cette gamine dont la vivacité m'a frappé lors d'une conférence-visite que j'ai dirigée au musée d'ethnographie du Trocadéro pour un groupe d'adolescents appartenant à l'organisation de gauche, les Faucons Rouges. La poupée que détient la fillette est bien celle que je cherche, et je la lui réclame. Elle me la donne, toute fière d'avoir mis la main sur l'objet disparu. Je converse avec elle. Nous débarquons ensemble et nous marchons le long du quai. La fillette a l'air de goûter beaucoup ma société, et je remarque que pour son âge, 12 ou 13 ans sans doute, elle est déjà très femme. Au bout de quelques minutes, je pense qu'elle est restée assez longtemps avec moi. Ses parents vont s'inquiéter, se demander ce que je puis faire avec elle. Aussi lui dis-je qu'il est temps qu'elle les rejoigne, si elle ne veut pas être grondée. Ma petite compagne m'explique alors qu'elle travaille la danse, puis, devenant peu à peu caressante, elle entreprend très consciemment de me séduire. Je suis maintenant dans une chambre, soit d'hôtel, soit d'appartement privé, où m'a conduit la jeune ballerine, bientôt identifiée à la femme qui avait perdu la poupée. Cette personne que je vois presque tous les jours sans avoir besoin de rêver et dont je connais la petite fille. L'enfant-femme ou la femme-enfant, confondue un peu plus tard avec Zette et non plus avec sa rivale, a préparé une manière de bacchanal. Deux marins sont là avec deux prostituées, tous quatre s'apprêtant à faire l'amour en même temps que nous, mais sans promiscuité. Les choses tardent un peu. On s'assure que toutes les portes sont bien closes. Puis je me déshabille en commençant non point, je crois, par enlever ma veste, selon les usages de la vie réelle, mais bel et bien mon pantalon. Sur ce, une porte s'ouvre, que nous n'avions pas remarquée. Arrive celle de mes trois belles-sœurs qui est restée vieille fille, apportant pour ma femme une bouillotte d'eau chaude ou quelque autre instrument de confort ménager. La femme, enfant et moi, nous sommes terriblement gênés d'être surpris ainsi en compagnie de partenaires pour une priapée. Détail d'ameublement, une sorte d'armoire étroite et haute, comportant, disposées les unes au-dessus des autres, trois lucarnes rondes, ménagées pour les voyeurs, ou qui sont elles-mêmes des têtes de voyeurs. Des coups de revolver sont tirés sur cette armoire, probablement par les marins. Janvier 1948, Sidi Madani, près Blida. Réfléchissant aux problèmes humains qui se posent en Algérie, problème dont, au cours de mon séjour, j'ai parlé à diverses reprises avec quelques résidents français qui mesuraient toute la gravité de la situation, dénonçaient les fautes commises et se montraient inquiets de l'évolution probable des rapports entre les deux éléments, musulmans et non-musulmans, de la population, je ressens si fortement l'impression du casse-tête que cela tourne à l'angoisse et que je pousse un cri. Aussitôt éveillé, je cherche à me rappeler ce que par-dessous cette teneur générale était concrètement mon cauchemar. Une tuile romaine, ou une ardoise luisante et glissante, objet tangible et non terme idéal d'une métaphore. C'est sous cette forme précise que m'apparaît alors la question musulmane. Sans doute était-il moins névrosé que moi, ces soldats que j'avais vus, un matin à Médéa, faire irruption en plein marché et manœuvrer sous le commandement de Gradé au cri rauque, en des évolutions qui forcèrent à un brusque repli les vendeurs soucieux de soustraire au piétinement les modestes denrées qu'ils avaient apportées de la campagne, serrées dans des couffins. Fin 1954, au petit matin, après réveil prématuré. Par besoin d'argent, je me suis engagé comme taureau dans une corrida. Au moment de la signature des papiers, l'impresario me fait passer une visite pour s'assurer que je possède bien les 5 cornes stipulées sur le contrat par lequel il s'engage, en effet, à fournir un taureau à 5 cornes. 2 de ces cornes sont censément sur ma tête. 2 autres sont les sommets de mes omoplates que l'impresario palpe pour vérifier. Ma femme est là et je lui dis que cela me fait un peu froid dans le dos d'être palpé en cet endroit, un peu au-dessous de la nuque, là même où pénétrera l'estoc. Elle me dit « Ce n'est qu'une mauvaise matinée à passer. Après, tu seras tranquille. » Je me révolte. Après, je serai mort. Tout à fait furieux, je leur crie, à l'impresario et à elle, « Vous vous foutez de moi ! Je ne marche pas !» Et j'ajoute, J'aime encore mieux tenter ma chance comme torero. Le contrat ne sera pas signé et le rêve s'arrête là. Presque tous ceux à qui je l'ai raconté m'ont demandé où se trouvait ma cinquième corne. 18-19 mai 1958. C'est en touriste que je me trouve dans cette ville, qu'à mon réveil, je n'ai pu identifier comme française, non plus que la rattacher à telle en particulier des pays que je connais. J'y suis en compagnie de quelques proches, dont les identités, elles aussi, me restent incertaines, bien qu'il y ait là ma femme, j'en suis à peu près sûr, et peut-être ces trois amis avec lesquels, il y a de cela quelques jours, et c'était peu avant la sédition qui provoqua en France l'écroulement de la Quatrième République, nous flânions au jardin zoologique de Bâle, à l'heure où un paon blanc, pour séduire une femelle de sa race, faisait la roue et bruissait de ses plumes, les secouant devant elle à l'instar d'un grémon qui vibrerait sous la poussée d'un souffle purement intérieur, jouant des battements quasi imperceptibles de cet éventail à claire-voix, en rouée ou en samouraï, et esquissant parfois un lent mouvement de giration, comme s'il avait cherché à mieux prendre le vent ou voulu présenter l'écran fascinateur sous un angle plus efficace. Ville inconnue et probablement étrangère, soit l'une de ces cités dont Artémidore d'Éphèse assure qu'il est néfaste de les voir en rêve. On nous a signalé, à moins que nous ne l'ayons lu, qu'il existait à proximité du centre de la ville un établissement consacré à l'art de la divination. Cette officine est, semble-t-il, reconnaissable sans beaucoup de difficultés, car elle occupe un édifice entier dont l'apparence, nous le savons, est celle d'une boîte de nuit, et comme il en est dans les quartiers de plaisir de tout pays, ou celle, plus discrète mais également repérable, de ce qu'il est convenu d'appeler une maison d'illusion. Toutefois, aucun détail ne nous a été fourni sur ce qu'est, en vérité, l'aspect de cette maison. Et nous ne possédons à ce sujet guère plus qu'un renseignement négatif. Son extérieur est aberrant par rapport à celui des autres maisons. Errance dont l'absence de plan reflète sans doute, dans le souvenir que je crois en avoir, l'allure à bâtons rompus propre à nombre de rêves, notre promenade nous amène dans une rue assez étroite et sans trottoir, analogue aux vieilles rues de bien des villes méditerranéennes, encore qu'il soit osé de mettre en jeu ici une comparaison qui est l'amorce d'une localisation, alors que rien de précis n'incline ce fragment de décor urbain vers le sud plutôt que vers le nord, et du côté du soleil plutôt que de celui des brumes. Nous voyons là un immeuble qui nous frappe, dès le premier coup d'œil, par ce qu'il a d'insolite. Une façade plus haute, qui ne serait normale, vu son peu de largeur, est chargée, sinon de statues anthropomorphes ou zoomorphes, à tout le moins de moulures, dans un goût gothique ou baroque. Par qui introduit et comment introduit, si tant est que nous n'ayons pas procédé de notre propre chef, dès que nous avons pénétré dans cette maison intérieurement plutôt obscure, à la façon d'un magasin d'antiquités où les objets exposés sont parfaitement visibles, mais où la lumière semble absorbée par l'excessif encombrement, nous nous trouvons en présence d'une femme en qui, d'emblée, nous reconnaissons la maîtresse du lieu, autrement dit, la prophétesse. Elle est assise, vraisemblablement sur une simple chaise, le dos tourné aux trois quarts, à quelques mètres du seuil. C'est une vieille négresse, ou éthiopienne, qu'on devine toute flétrie et dont les cheveux sont enserrés dans un voile de couleur blanc sale. Son image, non sur le champ, mais alors que je m'essaie à la recomposer, m'apparaît du même ordre que celle de ces matrones, comme j'en ai rencontré plus d'une en Afrique et en Haïti, dirigeant des confréries qui pratiquent le culte des esprits et tirant bénéfice de traitements médicaux, de prédictions, d'opérations magiques qu'elles affirment licites et non suspectes de sorcellerie, vaticinant, légiférant, portant parfois matériellement culottes, usant de leur autorité pour trancher des conflits d'intérêts et intervenant à l'occasion, dans les mariages et les divorces, de tout le poids dû aux liens qu'on leur prête avec les puissances surnaturelles qui, sous les yeux d'affidés, les font minauder ou gesticuler théâtralement dans des transes. Légèrement en retrait, tout près de l'arête droite du chambranle, une autre femme, à peau foncée, elle aussi, mais plus jeune et de stature haute et robuste, se tient debout. Elle est vêtue à l'africaine d'une longue et ample tunique de cotonnade sombre. Nul doute que cette imposante et belle créature soit une disciple faisant office de servante auprès de celle dont les talents la subjuguent. D'entrée, nous apercevons un hall spacieux qui n'est pas sans ressemblance avec une salle de lecture ou une réserve dans quelque bibliothèque municipale ou nationale. Sur des rayonnages aux tablettes et aux montants de métal grisâtre sont rangés des livres innombrables, dont l'ancienneté est manifestée par l'aspect riche et fané de leur reliure. Sur celui de ces rayonnages que nous voyons le mieux, à mi-hauteur du hall et le traversant de bout en bout, une épée de fer épais, longue d'une dizaine de mètres et certainement très lourde, est posée horizontalement par-dessus une grande partie des livres qui, tantôt debout, tantôt couchés, tantôt fermés, tantôt ouverts, semblent n'avoir pas été manipulés depuis des mois ou des années et ne figurer là que comme élément d'une mise en scène. Sur d'autres rayonnages que nous ne voyons pas, il y a, écrasant d'autres livres, d'autres épées de même format que la première et qu'on peut soupçonner de facture identique, munies d'une forte garde au caractère archaïque. Cela veut dire, et je le sais dans le rêve même, qu'ici, l'on ne tient aucun compte des livres. Les pronostics se font, non par science, mais par seule voie d'illuminisme, et ce sont des séances de possession qui constituent le plus clair de l'activité de la maison. Parmi les livres emmagasinés dans le grand hall du rez-de-chaussée, unique partie de l'officine que nous visitions, car le songe s'arrête là comme si la gigantesque épée, dont ne nous apparaît qu'un exemplaire, coupait court à toute possibilité d'une suite quelle qu'elle soit, il y a plusieurs ouvrages de magie, niais aussi. Comme la totalité du savoir imprimé, fut-il irrationnel, est annulée par la pesée de ce glaive.
RTF France 3 National vient de vous présenter Recherche de la France. Anthologie vivante. Aujourd'hui, Michel Léris. Page publiée, choisie par l'auteur, et présentée par Jean Paget. Avec le concours de Lolé Bellon, Roger Blin, Roger Coggio, Robert Liensol et Alain Cuny. Chef opérateur du son Francis Granal, assistante Nicole Vuillaume, réalisation Georges Gravier. C'était « Recherche de la France ».
L'émission que vous venez d'entendre a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 5 décembre 1962. Vous pouvez la réécouter et la podcaster en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits de France Culture ou sur l'application Radio France.
Des jours, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir.
Sur moi.